Toi, t'es gentil, t'es honnête, enfin, t'es cash, quoi.
Alors toi, dès que tu t'intéresses à quelque chose, tu le fais à fond.
Tiens, ça se voit pas. T'as pas l'air autiste.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'ai avec moi Floris. Bonjour Floris.
Bonjour Mélodie.
Merci d'être au micro de ce podcast. Alors, on a entendu avant le générique quelques phrases qui te parlent particulièrement et que tu as souhaité partager. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces phrases et te présenter également ?
Très bien. Alors, avant de parler d'abord de ces phrases, je vais me présenter. Effectivement, je suis Floris. J'ai actuellement 25 ans, 26 ans dans 2 mois. Je suis porteur d'un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme, où j'ai été diagnostiqué il y a plus de 20 ans maintenant, ça ne rajeunit pas. J'avais 4 ans aujourd'hui, les gens pourront faire le compte. Et je suis actuellement en Master 2 en stratégie digitale dans le domaine de la communication à l'ISCOM Toulouse. Et j'occupe un poste de chargé de communication dans un cabinet d'expertise RH spécialisé dans la politique handicap des entreprises. Et concernant les phrases, alors je vais rebondir sur la première, c'est « t'es gentil, t'es honnête, t'es cash ». Oui, c'est des attributs. Non, c'est vrai qu'on a tendance à me décrire comme une personne un peu pure, un peu saine. Des fois, il y a même, les gens me disent même parfois « on te donnerait le bon Dieu sans confesser ». Donc là, c'est parce que c'est ma transparence qui plaît en général, soit ou qui déplaît, parce que parfois je peux être froissé des gens sans m'en rendre compte. Ça, c'est l'une des difficultés récurrentes du TSA. Par contre, ce qu'on mentionne, c'est ma gentillesse, c'est mon honnêteté. Ça, c'est le côté positif de la chose. Parce qu'en plus, dans un monde où beaucoup de gens ne disent pas clairement ce qu'ils pensent, ou que pas très partiellement, où ils disent le contraire de ce qu'ils pensent pour avoir des attentes sociales ou que sais-je, j'avoue que ça, c'est assez absent dans mon fonctionnement. Je suis juste moi et j'essaie de vivre le mieux possible dans la société. Quoi.
C'est déjà pas mal.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. On est bien d'accord. Et pour la deuxième, c'est « Ah oui, Floris, depuis tout petit, on me le dit, c'est dès que tu t'intéresses à quelque chose, tu t'y intéresses toujours à fond. » Et ça, c'est lié aux intérêts spécifiques qui sont très fréquents chez nous, les autistes. Et c'est fréquent. On a des tendances obsessionnelles, nous, les TSA. Donc, on a des tendances à être très… dès qu'on est passionné par quelque chose, par un sujet, plusieurs sujets, il peut y avoir 2-3 sujets, ce n'est pas forcément de monosujets, contrairement à ce qui était pas mal répandu à une époque dans la communauté des spécialistes, on va dire, de l'autisme ou de la neurodiversité. Ce n'est pas forcément que ce sujet, ça peut être plusieurs sujets, mais c'est souvent un nombre, on va dire, un peu limité de sujets. Et quand je m'intéresse à 2-3 sujets, je vais toujours m'y intéresser à fond, et ça peut être difficile de m'intéresser à autre chose que des sujets dont je parle, et je peux pas mal me répéter, etc. Et la fameuse troisième phrase qu'on me dit souvent, c'est « Oh, t'as pas l'air autiste, ou ça se voit pas, oh là là, c'est… » Et bon, 9 fois sur 10, ça, c'est des gens qui soit sont souvent neurotypiques. C'est rarement des neuroatypiques qui me disent ça. Ça m'est déjà arrivé, mais ça reste quand même des exceptions. Et c'est, en plus, c'est des gens où, au mieux, soit des neuroatypiques qui s'ignorent et qui ne sont pas du tout… dans tous les cas, c'est des gens qui ne sont pas du tout spécialisés dans la neurodiversité, qui n'ont strictement rien au sujet, notamment de l'autisme. Maintenant, j'ai l'habitude, donc ça me fait presque rien, mais plusieurs fois, ça m'a pas mal vexé parce que, en fait, quand on est autiste, on sait, on connaît nos difficultés, on connaît nos souffrances, on connaît nos lacunes même, j'ai pas peur d'utiliser le terme. Et justement, on le sait, et les gens en font mention, même s'ils n'en font pas souvent quand on le vit, et qu'on n'a pas, je parle du cas où on a un autisme sans déficience intellectuelle. Par exemple, Asperger, qui était très fréquent, qui est plus trop utilisé, qui est moins utilisé qu'avant, mais voilà, c'est pour ne citer que l'exemple vraiment le plus connu, le plus célèbre, parce que le syndrome d'Asperger, c'est la forme d'autisme la plus médiatisée. Et en fait, quand on a un autiste sans déficience intellectuelle, le souci, c'est que les gens voient nos difficultés en font mention et nous se servent de ça pour nous tourner en dérision. Et quand on leur explique un peu plus tard, quand on a conscience que c'est lié à l'autisme, c'est parce qu'on est autiste qu'on a telle particularité, telle atypicité. Ils vont dire « Ah oui, oh ben non, ça se voit pas, je vois pas que t'es autiste. » C'est vraiment, ils se voilent la face, en fait, les gens. Mais j'avoue que c'est, C'est cette dissonance qui peut vraiment, qui est très perturbante pour moi et ainsi que pour, je pense, la majorité des autistes.
Et alors, c'est intéressant ce que tu dis sur cette fameuse phrase hein, qui revient souvent, le fameux t'as pas l'air autiste, et qui souvent, il y a son pendant, enfin, en tout cas, dans les échanges que j'ai pu avoir, puis ben, moi-même aussi, t'as d'autres moments où d'un coup, t'as quelque chose peut-être qui va plus ressortir, où là, on dit, mais ah ouais, t'es vraiment autiste. Et t'as souvent ce paradoxe, hein, je sais pas, c'est quelque chose que t'as vécu, où on peut à la fois te dire t'as pas l'air autiste, puis d'un coup, on va dire, ah ouais, mais là, t'es vraiment autiste. Et. De la même personne d'ailleurs.
Ça m'est déjà arrivé, oui, enfin plus ou moins. Alors, pas forcément de la même personne, mais par exemple, ça n'a pas l'air autiste. Et par exemple, ça me rappelle ben justement, c'est quand j'étais une fois en région parisienne, parce que quand j'étais avec mon oncle chez des amis, et en région parisienne. Et j'étais. Une fois, en fait, ben, j'avais un peu bu de bière, parce qu'en fait, c'est moi ce qui me rend d'ailleurs, c'est souvent mes symptômes autistiques, en sorte quand je suis dans un état un peu d'ivresse, parfois dans un peu second, c'est là où parce que là, je suis plus en mode je masque, je ne masque plus rien, et du coup, je lâche un peu prise. Et en fait, j'étais dans mes pensées à faire des allers-retours, parce que c'est fréquent, je fais souvent ça, des allers-retours de manière vraiment, de manière très stéréotypée, vraiment, où je vais dans mes pensées, mais c'est pas, je le fais pas ça consciemment, ça fait partie de moi, c'est ma façon d'être. Et mon oncle, justement, j'avais fait ça, et quand il s'est fait, pourquoi tu fais, ça faisait un moment, un certain temps que je faisais des allers-retours sans m'arrêter, toujours dans les mêmes points de la pièce, il disait, pourquoi tu fais des allers-retours, l'autiste? Bon, après, il faut connaître mon oncle parce que quand tu connais mon oncle, bon, je l'ai même pas mal pris, je n'avais même pas la force de mal le prendre. Et donc, du coup, c'est vrai, mais ça fait quoi ce que tu dis, en effet? On va dire, ah oui. Ou alors, par contre, l'étiquette qu'on m'a collée, qu'on m'a très souvent collée et qu'on a collée à beaucoup de gens, beaucoup aux personnes autistes, c'est, ah, tu es, oh oui, il a l'air bizarre, ou là, c'est bizarre ce que tu dis. Ouais, t'es bizarre. On me l'a déjà dit, ça.
Ouais, bizarre, c'est ça. Ouais. Quand on ne sait pas trop comment le qualifier, en effet, c'est un terme qui revient souvent, en tout cas, dans les personnes qui témoignent.
Ouais. Tout à fait, c'est ouais, c'est bizarre. Moi-même, je vais raconter une petite anecdote. Quand j'étais en école, parce que c'est vrai, là, j'ai dit que j'étais en Master 2 en stratégie digitale à l'ISCOM Toulouse. Mais à l'époque où on s'est connu, d'ailleurs, Mélodie, j'étais en école de communication et de journalisme. En bachelor 3 ou licence 3, bon, c'est la même chose, vous appelez ça comme vous voulez. C'est que moi, j'aime bien dire d'être un franco-français, pas trop anglo-saxon, même si j'aime beaucoup la langue de Shakespeare, attention, j'ai tout le respect que j'ai pour la langue de Shakespeare. Et c'est que, en effet, j'étais en licence 3, en école de communication et de journalisme, et en fait, à cause de problèmes que j'avais en interne avec une étudiante, notamment, qui était leader d'opinion, et notamment une des problèmes internes que j'ai évoqué, enfin que j'avais évoqué précédemment, quand on a préparé, voilà, juste avant le podcast, et donc suite à ça, j'ai fait un peu un burn-out autistique, j'en pouvais plus parce que à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, j'ai caché mon autisme parce que j'étais tellement persécuté à une époque. J'ai eu une scolarité chaotique jusqu'au lycée. Voilà, mais après, je me suis bien sorti. Maintenant, je suis en Master 2, j'ai Bac plus 4, mais j'ai bien rebondi. Et j'ai fait une école de com et de journalisme qui est classée parmi l'une des meilleures de France. Donc, c'est cool, l'ISCPA, donc pour ceux qui connaissent. Et mais pendant longtemps, pour vous dire, j'ai même pas le brevet des collèges, j'étais dans des choses spécialisées, j'ai fait des hôpitaux de jour, etc., psychiatriques, etc. Donc vraiment, j'ai redoublé la grande section de maternelle. Un inspecteur académique avait même postulé pour que je envoyé me courrier à mes parents pour que on me sorte du système scolaire, alors que j'étais. Donc pour vous dire à quel point vraiment le système n'était pas du tout avec moi. C'était pas du tout avec moi, pas du tout. Et du coup, je me suis senti obligé, à cause de cet ensemble, de cacher mon autisme. Parce qu'en fait, je savais que j'étais différent, je faisais tout pour le cacher. Et je l'ai caché pendant 12 ans à peu près. Pendant 12 ans, je veux dire, à peu près de mes 11 ans à mes 23 ans. Oui. Donc, et c'est à mes 23 ans, j'en pouvais plus. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est là où j'ai pris contact avec un cabinet qui s'appelle Astypique, grâce à la référente handicap de l'ISCP à Toulouse à l'époque. Et c'est là où elle m'a mis en contact avec ce cabinet spécialisé sur la neurodiversité et surtout l'autisme. Et grâce à ça, du coup, on a mis en place une sensibilisation. Et justement, Et après la sensibilisation, une prof qui était très sensible à ce type de sujet m'a parlé seule à seule parce que j'avais un cours particulier avec elle. J'étais en redoublement modulaire précisément à l'époque. Elle me dit, au fait, Floris, je voulais vous dire, je trouve ça courageux de votre part d'avoir mis en place la sensibilisation. Elle me dit, vous savez, j'ai regardé vos camarades pendant la sensibilisation. Elle dit, oh, ça, bon, elle était plus forte que moi en termes de théorie de l'esprit. Mais elle m'a dit, ça se voyait que vous avez mal jugé en disant, ouais, Floris, il est bizarre, il est vraiment chelou. Parce que ça se voyait qu'ils avaient un jugement trop hâtif. Et quand on leur a expliqué le TSA et toutes ses particularités, là, ils ont compris, ça les a éclairés, ils ont fait des grands yeux, ça les a vraiment éclairés, quoi. Ils ont mieux compris pourquoi j'étais différent, quoi. Et ça m'a fait du bien parce que j'avais tellement peur d'être persécuté, j'ai tellement été persécuté, c'est pas victimaire de dire ça, c'est vraiment objectif, que ce soit par des enfants ou même des adultes, que du coup, le rien que fait de l'évoquer, ça pouvait, j'avais un blocage, j'arrivais pas à en parler, parce que je me disais, en gros, Floris, si tu en parles, si tu manifestes ton autisme, ben c'est la mort sociale en fait. Tu seras jamais aidé, tu seras toujours persécuté, on te fera toujours du mal. Et là, c'était vraiment un instinct de survie en fait. Vraiment, c'est la survie. Et je pense que ça peut paraître fort ce que je dis, mais je pense que c'est quelque chose qui fait écho à beaucoup de personnes autistes justement. La survie.
Souvent, on survie. Dit que la suradaptation ou le masking vient de ça. En fait, c'est un instinct de survie suite, malheureusement, potentiellement à du harcèlement ou des situations qui font que, au bout d'un moment, c'est plus simple de plus être soi-même pour se protéger. C'est vrai que ça revient souvent, ouais, malheureusement.
Bah oui, tout à fait. C'est pas parce qu'en fait, les gens, les neurotypiques, souvent se rendent pas compte de la suradaptation, de tous les efforts qu'on fait pour vraiment être le plus, pour s'intégrer, voire pour s'assimiler, si on pousse un peu le terme, parce que on doit assimiler des codes sociaux qui sont pas les nôtres. On doit assimiler un système de fonctionnement neurologique majoritaire qui n'est pas du tout le nôtre. C'est vraiment, à titre d'exemple, pour qu'on ait un exemple très concret, c'est absolument pas vantard ou condescendant ce que je vais dire, mais je suis souvent obligé, pour me faire comprendre des neurotypiques, parce qu'avant je me faisais pas du tout comprendre, et je suis obligé de limiter mon langage, quoi. D'utiliser des termes moins soutenus, un langage moins raffiné, je dois plus grossir les traits, je dois être plus dans l'approximation. Et c'est vraiment, maintenant je maîtrise un peu plutôt bien le mécanisme, mais au début c'était très difficile et ça pouvait vraiment créer du rejet.
On est d'accord, chaque mot a une signification bien précise.
Ah ben oui, bien sûr.
Et ça c'est pour ça.
Et ça a un coût pour moi de le faire, mais je le fais pour ne pas être mal vu, pas persécuté, c'est pour ça en fait. Par contre, il y a quand même du positif, mais c'est qu'en fait, je suis quand même content que le sujet du TSA devienne de plus en plus, entre guillemets, à la mode, on va dire, à la mode. C'est que il y a des côtés négatifs parce que ça crée la vie d'opportunistes qui prétendent être ouverts à la diversité, à la neurodiversité, alors qu'en fait, ils n'ont rien à faire. Donc ça malheureusement, on ne peut pas y échapper. C'est comme dans toutes les tendances, en fait. Ça, c'est partout. Mais l'avantage, c'est que du coup, on peut plus facilement en parler. On est moins obligé qu'avant de masquer notre TSA. Et c'est vraiment le côté positif. Maintenant, tu cites l'intérêt. Les gens tendent beaucoup plus souvent. Ils l'acceptent plus facilement. Parce que par exemple, il y a quelques mois, mon entreprise a partagé un article que j'ai écrit sur moi-même, parlant de Floris, notre communicant atypique, où je parle ouvertement de mon TSA dans l'article. Je parle aussi de mon cursus scolaire, des classes spécialisées, type LI, ECLIS, CEPA, etc. Et en fait, ça a été très bien reçu de la part de mes camarades. Bon, ils m'en ont pas parlé, mais j'ai eu énormément de likes et beaucoup de la part de mon école. Et je sais que beaucoup l'ont lu. Et moi, j'avais peur. Je me suis dit, mais comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont me rejeter? Alors que, en fait, pas du tout. En fait, ils l'ont super bien pris. Et peut-être, chez certains, ça leur a permis de me comprendre. Et aussi, ça a suscité de l'intérêt. Ça a donné une certaine tendresse, en fait, aux gens. En fait. Donc, du coup,
L'importance de sortir des tabous et de sensibiliser. En effet, c'est vrai que ça permet. Ouais, clairement, oui, clairement, ce genre de choses. Alors, tu disais quelque chose et je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça fait partie, alors
on va dire, du paradoxe cliché, si j'ose le formuler comme ça, un autiste qui fait de la communication. Bon, c'est moi qui te dis ça, mais...
Oui.
Parce que c'est vrai que ça peut voilà, quand on imagine ou quand plutôt on entend, pas quand on imagine, mais quand on entend, voilà, on visualise pas forcément ce type de formation. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de dire que, bah oui, tout à fait, c'est pas paradoxal, ou en tout cas peut-être pas pour, voilà, ça peut paraître à certaines personnes, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, bah, pourquoi toi, qu'est-ce qui t'a attiré justement dans la communication, pourquoi ce choix-là de cette vie, bah, de cette vie pro, enfin vers cette vie pro que tu...
Oui, mais c'est justement, parce que là, j'ai pas pensé en parler au début, mais j'aurais pu parce qu'on l'a énormément de fois sorti. Première chose, c'est que moi, j'ai toujours été, moi, mon intérêt spécifique, mes deux principaux, ce sont les lettres, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'écriture, de la poésie, les essais, etc. Les essais littéraires, c'est quelque chose qui me passionne, qui me fait vibrer, même le langage, je suis fasciné par le langage aussi, le langage, par exemple, les dialogues dans les films, par exemple, ou dans les livres, ou même le récit, la narration, c'est quelque chose qui me fascine, vraiment, je suis fasciné par ça, depuis toujours, depuis tout petit, c'est un amour pour les lettres que j'ai, et l'histoire, hein. L'histoire et la géographie aussi, ce sont les trois, on va dire, trois intérêts, on va dire, spécifiques qui me caractérisent depuis toujours, même s'il y en a eu d'autres, bien sûr, parce que parfois les sujets sont interchangeables, certains sujets sont interchangeables avec d'autres. Et en fait, du coup, moi, j'ai toujours rêvé d'un métier où je pouvais écrire, en fait, je pouvais rédiger, peu importe quoi. Et aussi, à l'adolescence, je me suis plus intéressé au domaine du numérique, de l'informatique, aux réseaux sociaux notamment, je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, j'adorais ça. Je me suis penché sur la communication et j'ai vu qu'il y avait des métiers qui combinaient les deux domaines, qui, à la fois l'histoire, les lettres, l'écrit, on va dire, et justement le numérique. Et donc je pense par exemple au métier de community manager, par exemple, pour ne citer que celui-là, parce qu'il y en a plein d'autres, mais et je me suis dit, bah, du coup, c'est parfait, c'est fait pour moi, quoi. C'est venu tout seul. Et en fait, justement, ce que les gens ignorent, en fait, quand on est autiste, c'est pas parce qu'on a des difficultés de communication qu'on a forcément des difficultés de communication verbale, justement. La communication, surtout que la communication humaine, elle est posée sur entre 80 et 90% de non-verbal, justement. Et c'est ça qui peut être plus difficile pour une personne autiste, effectivement. Et c'est qu'en plus, la communication, c'est ultra large, elle n'est pas forcément verbale, la communication. Elle peut être écrite, elle peut être sensorielle, elle peut être culturelle. Elle peut être culturelle, par exemple, sémiologique. Les gens ignorent tout ça, mais la communication, c'est beaucoup plus vaste que ce que les gens disent. C'est pas juste le fait de parler, en fait. Et en fait, c'est aussi parce que la communication, c'est surtout l'aspect rédactionnel qui m'attire et qui me fascine. Une personne autiste, en fait, c'est pas du tout paradoxal qu'elle peut être communicante de métier, parce qu'une personne autiste peut avoir, parce qu'en fait, elle peut s'intéresser à tous les sujets. L'intérêt spécifique, par définition, même scientifique, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc la communication, le verbe, les lettres n'est pas une exception, en fait, ne fait pas exception à la règle du tout. Et en fait, il y a des métiers de la communication qui sont moins portés vers la communication verbale. Par exemple, le métier de rédacteur web, on peut être beaucoup plus isolé, on peut être plus dans son monde, etc. Et c'est très différent, par exemple, d'un chargé de projet événementiel, par exemple. Et donc, il y a des métiers qui correspondent complètement au fonctionnement des autistes, où il n'y a pas trop d'interactions sociales, etc. Parce qu'il ne faut pas croire que la communication, c'est un métier où il n'y a que... C'est un métier où on interagit tout le temps avec les autres. Ça, c'est un leurre, ça, c'est un mythe, c'est un stéréotype, c'est... et d'autres synonymes du genre. Il y a beaucoup de métiers qui correspondent beaucoup aux personnes autistes, et en fait, il suffit juste de s'y intéresser, tout simplement, de se renseigner. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus.
Ben, merci beaucoup, Floris. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager maintenant qu'on arrive vers la fin de ce podcast? Je sais pas, un conseil peut-être pour des personnes qui écoutent, qui se posent des questions, ou leur entourage également?
Alors moi, le premier conseil que je pose à les personnes qui se posent des questions sur leur atypicité, c'est déjà de ne pas avoir peur de contacter une psychologue. Déjà, il faut qu'une psychologue ou un psychologue, je dis une, mais je vais faire un réflexe, mais évidemment, ça marche aussi pour les hommes, bien sûr, je ne les exclus pas du tout. De ne pas hésiter, franchement, les professionnels sont là pour ça, ils sont habitués, donc il faut vraiment pas avoir peur de ça. Et surtout, dire par exemple, même auprès de l'entourage, c'est que ça peut être un défi parfois, dire oui, mais surtout pas à dire qu'en fait, sans dire par exemple, je sens que je suis neuroatypique, parce que beaucoup de gens ne sont pas sensibilisés, mais juste dire voilà, je voudrais prendre contact avec un psychiatre, un psychologue, parce que j'en ai besoin, et c'est pour moi, j'ai besoin d'avancer. Enfin, je ce n'est qu'un exemple, ce que je dis bien entendu, mais de ne pas avoir peur de prendre l'initiative. Et que si vraiment les gens, les professionnels concernés vous détectent une potentielle atypicité, vraiment ne pas être réticent à faire des démarches, parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre dans l'ignorance et dans l'incompréhension. Le diagnostic peut être libérateur. Par exemple, pour ma part, j'ai été diagnostiqué avec trouble envahissant du développement à l'époque, qui fait partie du trouble du spectre de l'autisme, à l'âge de 4 ans, mais on me l'a vraiment annoncé quand j'avais 15 ans, et pendant des années, j'ignorais pourquoi j'étais si différent, pourquoi j'étais exclu, pourquoi j'étais en hôpital de jour psychiatrique, pourquoi j'étais dans un cas spécialisé, pourquoi tout ça, pourquoi j'étais différent. Tout... Et le fait de savoir pourquoi, ça m'a vraiment libéré, ça m'a permis de mieux m'accepter moi-même, de mieux me comprendre, et ça m'a même amélioré dans mon rapport avec les autres. Et donc vraiment, n'ayez pas peur, ce sera libérateur pour vous, à tous les niveaux. Voilà, vraiment.
Merci beaucoup, je trouve que c'est une belle conclusion hein, dans ce que tu disais, de ne pas avoir peur de prendre des initiatives et puis permettre d'être libéré pour s'accepter. Et ben, merci beaucoup Floris pour tous ces partages.
Bien, avec grand plaisir. Ben, merci à toi Mélodie pour l'invitation, merci beaucoup.
Au plaisir. Et puis ben, pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.